Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 8 mai 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous, Nathalie Barge, en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
La présidente centrafricaine souhaiterait que le déploiement des casques bleus commence plus tôt que prévu.
J'aimerais bien, moi, sincèrement, que cet agenda soit plutôt avancé. La période de soudure entre maintenant et septembre est une période de tous les dangers où les groupes armés vont essayer d'occuper le terrain.
Catherine Samba-Panza lors d'un entretien avec La Voix de l'Amérique. Les pêcheurs sénégalais contestent un accord qui autorise les Européens à pêcher dans les eaux du Sénégal. 15% du budget de l'État malien sera consacré à l'agriculture. Et les villes béninoises planchent sur des solutions de financement économique. Nous aurons d'autres titres avant les sports et la page musicale de Roger Muntou, mais on commence par un bulletin d'actualité.
300 000 dollars, c'est la récompense promise à quiconque permettra de retrouver les collégiennes kidnappées au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram. Avec cette offre, la police nigériane espère donner un coup de pouce décisif aux efforts de recherche. Des détails avec Issa Napan.
La police met sur la table cette somme de 300 000 dollars pour inciter les langues à se délier et récompenser quiconque apportera une information crédible à même d'aider à localiser et secourir les collégiennes enlevées le 14 avril dernier dans l'état de Borno. Un numéro d'appel a pour ce faire été mis sur le site internet de la police nigériane qui promet de traiter toute information reçue avec une extrême confidentialité. Le groupe islamiste Boko Haram a très tôt revendiqué le rapt et déclaré par la voix de son leader leur intention de vendre leurs victimes. Les États-Unis ont décidé mardi d'apporter leur assistance au Nigeria dans ses efforts pour localiser et secourir ces jeunes filles. Dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC, le président américain Barack Obama a déclaré que cet événement est celui qui va mobiliser le monde entier contre ce qu'il appelle une organisation de l'horreur.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar doivent se rencontrer vendredi à Addis Abeba afin de trouver une issue au conflit au Soudan du Sud, a annoncé la médiation. Cette rencontre, si elle a réellement lieu, sera la première entre les deux hommes depuis le début du conflit, déclenché mi-décembre par des combats au sein même de l'armée sud-soudanaise entre des troupes fidèles au président et celles loyales à Riek Machar, l'ancien vice-président.
En Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir est en tête, alors que les premiers résultats des élections législatives d'hier commencent à être rendus publics. Après dépouillement d'environ 20% des voix, l'ANC obtient 56% des suffrages, contre 31% pour son principal rival, l'Alliance démocratique. Aucune autre formation n'a recueilli plus de 4%. Et selon la commission électorale, le taux de participation était de 72%.
République démocratique du Congo, la Fédération internationale des droits de l'homme a dénoncé l'acquittement de la quasi-totalité des soldats accusés d'avoir participé au viol de masse en 2012 à Minova dans l'est du pays. Le verdict rendu est celui d'une justice expéditive et bâclée qui découragera davantage les victimes de crimes de violence sexuelle de porter plainte, déplore la FIDH dans un communiqué. Selon l'ONU, pendant 11 jours en novembre 2012, 135 femmes et enfants ont été victimes de violences sexuelles.
Au Kenya, selon les autorités, la consommation d'alcool frelaté a fait au moins 80 morts depuis lundi. Le Centre national de gestion des catastrophes indique qu'une enquête est en cours pour découvrir l'origine des boissons illégales. Plus de 180 personnes sont hospitalisées, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, et deux personnes soupçonnées d'avoir vendu l'alcool en question ont été arrêtées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise en Ukraine, Moscou fait un pas dans le sens du dialogue. Le président russe Vladimir Poutine a appelé les séparatistes dans l'est de l'Ukraine à reporter un référendum sur l'indépendance de la région de Donetsk prévu dimanche. S'exprimant hier au Kremlin, M. Poutine a également suggéré publiquement pour la première fois que l'élection présidentielle du 25 mai en Ukraine était un pas dans la bonne direction. Félix Yepassi-Zembrou.
L'équation ukrainienne vue de Moscou est posée en ces termes. Si les séparatistes pro-russes écoutent l'appel du président russe à reporter le référendum et si Kiev à son tour arrête son opération militaire et prend des mesures pour lancer un dialogue, alors cela peut sortir l'Ukraine de cette situation qui ne fait qu'empirer, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Il a ajouté que Moscou ne négocie pas avec Kiev et que la proposition de M. Poutine de demander un report du référendum n'est pas un pas vers Kiev, mais un pas vers tout le peuple ukrainien. M. Poutine a exhorté hier, mercredi, les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine à reporter le référendum prévu dimanche, affirmant qu'il effectuait des démarches pour créer les conditions nécessaires à un dialogue avec le gouvernement ukrainien.
En Syrie, des centaines de rebelles ont commencé à quitter la vieille ville de Homs. Ce départ, après un siège de plus de 2 ans, est un succès pour le régime syrien. Des détails avec Nicolas Pineau.
Oui, l'évacuation d'au moins 1200 personnes, des combattants, des civils et des blessés de Homs s'inscrit dans le cadre d'un accord avec Damas conclu à l'issue de 2 mois de négociations. L'évacuation s'est faite à l'aide de bus dont les vitres étaient recouvertes de papier et l'opération se poursuivra ce jeudi. La chute de Homs, considérée comme la capitale de la révolution, est lourde de sens à 1 mois de la prochaine élection présidentielle qui verra la réélection attendue de Bachar al-Assad. En visite à Washington, le chef de l'opposition, Ahmad Jarba, a réclamé des armes efficaces pour pouvoir gagner la guerre face au régime syrien.
Un agent du FBI arrêté au Pakistan. L'homme dont l'identité n'a pas été confirmée par l'ambassade américaine à Islamabad a été détenu avant d'embarquer à bord d'un avion à Karachi. Selon les autorités, il transportait illégalement 15 balles de revolver 9 mm et 3 couteaux et se rendait dans la capitale. Nous essayons de résoudre cette affaire en coordination avec les autorités pakistanaises, a déclaré une porte-parole de l'ambassade. À Washington, la porte-parole du département d'État, Jen Psaki, a confirmé l'arrestation. Sans dévoiler son nom, elle a dit qu'il était un agent du FBI en affectation temporaire pour une assistance de routine à l'attaché juridique de la mission américaine.
Et puis le département d'État américain a fermé son ambassade au public au Yémen après les récentes attaques contre les intérêts occidentaux dans ce pays. La fermeture de l'ambassade américaine à Sanaa devrait être temporaire et ne concerne que les services au public, y compris le traitement des visas. Selon la porte-parole du département d'État, Jen Psaki, la mission sera ouverte au public lorsque la situation sécuritaire le permettra.
Ici aux États-Unis, la police a opéré de nombreuses arrestations et des saisies massives de drogue de synthèse dans 29 États. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Il y a eu plus de 150 interpellations et quelques 20 millions de dollars en argent liquide saisis dans le cadre d'une enquête lancée par l'Agence fédérale de lutte contre la drogue, la DEA. Pour l'administratrice de la DEA, Michelle Leonard, les drogues de synthèse sont plus dangereuses que la marijuana. Elles sont commercialisées sous la forme d'encens, de sel de bain, de nettoyants de bijoux ou encore d'engrais pour plantes. On peut les acheter sur Internet ou dans des petits commerces sous les marques d'encens Spice, K2, Blaze et Red X Dawn ou de sel de bain Ivory Wave, Purple Wave, Vanilla Sky ou Bliss. Elles produisent une dépendance, des hallucinations et peuvent entraîner la mort par surdose. Ces produits font des ravages chez les adolescents et les jeunes adultes. En 2013, 227 personnes avaient été arrêtées ici aux États-Unis et des perquisitions dans 45 États avaient conduit à la saisie de 60 millions de dollars en argent liquide.
Enfin, le président Barack Obama a réconforté les victimes de la tornade qui a ravagé le sud-est des États-Unis. Monsieur Obama s'est rendu à Vilonia, dans l'Arkansas, au nord de la capitale, Little Rock. Devant les décombres de bâtiments et les épaves de voitures, Monsieur Obama a déclaré que ce qui s'est passé dans la ville a été ressenti par tous les Américains. Et il a souligné que son administration va soutenir les sinistrés. 15 personnes ont été tuées et des centaines de maisons détruites par la tornade du 27 avril dans l'Arkansas, qui a également traversé ces 8 autres États sans faire autant de dégâts.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique avec vous, Nathalie Barge. Au lendemain de son discours prononcé devant les membres du Conseil national de transition à Bangui, la présidente centrafricaine qui a passé le cap des 100 jours à la tête du pays a dit à la Voix de l'Amérique qu'elle faisait de son mieux pour tenter de régler la crise. Écoutez Catherine Samba-Panza au micro de Nicolas Pineau.
Écoutez, j'ai fait le mieux de ce que j'ai pu faire. Je savais que c'était pas facile. Je n'avais pas conscience que c'était aussi difficile. Je m'étais engagée à essayer de résoudre les nombreux problèmes de la République centrafricaine, de relever les nombreux défis qui se posaient à moi quand je suis arrivée, de répondre surtout aux attentes des populations. J'ai tenté du mieux que j'ai pu d'apporter des réponses à certaines priorités. La priorité des priorités, c'était la sécurité et c'était la réponse humanitaire. Des actes ont été posés. Objectivement parlant, nous avons enregistré quelques avancées, mais beaucoup reste à faire. Ça, il faut le reconnaître.
Vous avez annoncé un remaniement ministériel. Quand aura-t-il lieu?
Nous allons prendre le temps de le faire avec le Premier ministre, tranquillement, et éviter les erreurs du passé. Il nous a été reproché une faible représentativité des anti-Dalaka. Il nous a été reproché un surnombre des ex-Séléka. Il nous a été reproché de ne pas avoir totalement tenu compte de l'équilibre régional. Donc voilà autant de critiques dont nous allons tenir compte.
Vous avez récemment reçu à la présidence l'un des leaders des anti-Balaka, Patrice Edouard Ngaïssona. Certains diront que c'est un signal, oui, un mauvais signal envoyé contre l'impunité. Qu'en pensez-vous?
Pas du tout. Je l'ai reçu à sa sortie de mon bureau. Il a été dans les services judiciaires. Il a été écouté. Il est sous contrôle judiciaire et vient deux fois par semaine être écouté et être contrôlé. Donc, sur l'aspect judiciaire, il n'a pas échappé à la justice de son pays.
Mais beaucoup disent que les anti-Balaka sont des ennemis de la paix. Qu'en pensez-vous?
Ça a été dit, c'est vrai, parce qu'à un moment, il s'agissait donc de groupes qu'on ne contrôlait pas et qui ne contrôlaient pas non plus ces éléments. Et donc, nous avions estimé qu'il fallait mener des actions du côté des anti-Balaka qui devaient davantage contrôler leurs troupes sur le terrain.
Et aujourd'hui, cela est fait, ils sont plus fréquentables?
Plus fréquentables, j'en sais rien, mais ils ont tendu la main. Ils ont déclaré qu'ils allaient faire en sorte de ramener la paix au sein de leur localité et d'être plus actifs comme acteurs de paix que comme acteurs de déstabilisation.
Et vous pouvez retrouver l'entretien de la présidente de Transition Centrafricaine, Catherine Samba-Panza, sur lavoixdelamérique.com.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Au Sénégal, plusieurs groupements de pêcheurs artisanaux contestent l'accord signé fin avril entre l'État et l'Union européenne. Cet accord permet à 38 navires européens de pêcher 14 000 tonnes de thon pendant 5 ans dans les eaux sénégalaises. Idriss Fall a joint le ministre de la pêche sénégalais, Ali Haïdar, qui explique l'arrangement avec l'Europe.
En fait, depuis 2006, il existe des accords qui autorisent à des bateaux de l'Union européenne de pêcher dans nos eaux. Ces accords que Diboka avait signés ont été reconduits par tous les ministres qui sont passés depuis que je suis arrivé. Et moi-même, je l'ai signé. Mais quand je l'ai signé, j'ai dit que des accords exceptionnels qui permettent à des bateaux européens de pêcher le thon chez nous, sans payer de compense financière, c'est quelque chose d'illégal. Parce que la loi au Sénégal est très claire. Elle dit que c'est de pays à pays que nous pouvons négocier un accord. C'est pas de pays à armateur. Donc j'ai arrêté ces accords exceptionnels et j'ai demandé à l'Union européenne de faire la table pour nous payer une compense financière parce que depuis 2006, ils pêchent le thon chez nous. La nouveauté, c'est qu'ils vont payer une compense financière pour ce thon qu'ils pêchent.
Et ils payent combien?
Ça, c'est une première dans l'histoire des négociations. Une compense financière pour le thon pêché, les 14 000 tonnes, de 15 millions d'euros sur les 5 ans, et aussi un accompagnement au niveau du DG développement sur 4 axes prioritaires que sont la recherche, la surveillance, un projet de fonds social pour accompagner la pêche artisanale et enfin la restauration des écosystèmes dégradés de juvéniles. Nous avons négocié avec le DG MAR 15 millions d'euros et avec le DG développement, ces 4 projets prioritaires pour le ministère vont tourner autour de 50 millions d'euros.
Mais pourquoi cet accord soulève donc la colère des pêcheurs traditionnels?
Il y a une manipulation du GAIPS qui se sert de Greenpeace et cette manipulation veut faire croire que c'est la pêche artisanale qui se soulève. La pêche artisanale, je n'ai aucun problème avec eux. C'est parce que les accords d'avant servaient par exemple le GAIPS qui a à un moment touché 190 euros par tonne débarquée. Donc une société privée qui touchait 190 euros par tonne débarquée, soi-disant c'est des frais d'approche, alors que cela n'est pas versé à l'État du Sénégal. Donc c'est le lobby qui tirait profit de ces accords soi-disant secrets avant, c'est eux qui montent au créneau parce qu'ils ne sont pas contents. Maintenant, on paye à l'État du Sénégal. Et voilà, moi je travaille pour l'avenir de la pêche artisanale. Donc je dis, il faut payer à l'État pour que l'État puisse subvenir aux besoins des pêcheurs.
C'était le ministre de la Pêche sénégalais, Ali Haïdar.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaolack.
L'État malien va affecter 15% de son budget à l'agriculture et notamment baisser les prix de l'engrais. Ces décisions prises lors de la 5e session du Conseil supérieur de l'agriculture ont été bien accueillies par les paysans maliens. Les détails avec Kassim Traoré à Bamako.
Cela fait 5 ans qu'avant la campagne agricole, le Mali organise le Conseil supérieur de l'agriculture, histoire de faire le bilan de la campagne passée et de prévoir ce qui est réalisable pendant la future campagne. Cette année, le Mali veut avoir 7 millions de tonnes de céréales, 600 000 tonnes de coton, d'où cette décision du président de la République.
Je réitère ici notre engagement à doter le secteur du développement rural de ressources agricoles en y affectant 15% du budget national. Madame la ministre des Finances, vous ferez en sorte en tout cas de plier pour arriver à ça, par tous les moyens. Et nous décidons que le prix d'achat de l'intrant sera de 11 000.
L'affectation de 15% du budget de l'État à l'agriculture et le fait de rendre accessible à prix abordable les tracteurs aux producteurs sont des initiatives saluées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Bakary Togola, président de l'APCAM.
Un chef doit décider comme ça. 15% du budget de l'agriculture, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées dans le domaine d'aménagement, des petits barrages. Et je pense qu'avec la subvention des engrais à 11 000 francs, il y a 1 500 qui a été enlevé. Donc c'est un ajout au profit des producteurs. Donc je pense que c'est très très important pour nous.
Il reste à attendre la pluie et la concrétisation de la parole présidentielle. Car une chose est de prendre des décisions, l'autre est de les appliquer. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le Forum économique mondial pour l'Afrique qui se tient cette semaine au Nigeria. Malgré les préoccupations sécuritaires, qu'attendez-vous de ce sommet? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Souvent visée par des opérations antiterrorisme au Kenya, la communauté somalienne ne se sent plus la bienvenue dans ce pays. De nombreuses familles décident ainsi de retourner à Mogadiscio. Le point avec Michel Joseph.
À cause du ras-le-bol, dit Ifra Osman, rencontrée dans la capitale somalienne, cette mère de 2 enfants a quitté Nairobi après y avoir vécu pendant 6 ans. Elle ne pouvait plus supporter, confie-t-elle, les harcèlements quotidiens, dont les descentes de police et autres tracasseries sécuritaires. J'ai pris la décision de partir quand ils ont frappé à ma porte à 1h du matin, réveillant mon bébé. C'est en ce moment-là que j'ai compris que je devais partir. À l'instar d'Ifra Osman, un grand nombre de Somaliens ont choisi le chemin du retour, même si certains d'entre eux vivaient depuis longtemps au Kenya, où ils ont établi des commerces et élevé leur famille. La police dit être à la recherche de clandestins au sein de la communauté d'ethnie somali dans le quartier d'Isli, à Nairobi. Et ce, à la suite d'attentats à la voiture piégée et d'autres attaques, imputées aux militants islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Mais les leaders de la communauté se plaignent d'être injustement ciblés et victimes de délits de faciès et de punitions collectives. La police le dément et se promet de poursuivre ses opérations sécuritaires. Le premier ministre somalien, Abdi Weli Sheikh Ahmed Mohamed, voit un danger dans de telles opérations. Affecter des personnes innocentes ne peut que faire le jeu d'Al-Shabaab et traumatiser les gens. Il faut y mettre un terme. Je crois que nous devons avoir des opérations ciblées visant ces groupes terroristes. Bien que l'insécurité règne encore à Mogadiscio, la ville est différente de celle qu'avaient fui les réfugiés il y a plusieurs années. Depuis qu'Al-Shabaab en a été chassé en 2011, de nombreux Somaliens de la diaspora sont revenus chez eux et ceux du Kenya qui se plaignent de harcèlement policier préfèrent donner une seconde chance à leur pays d'origine.
Au Bénin. Pour pallier au manque de financement des initiatives à la base, certaines communes se lancent dans l'organisation de forums économiques afin de réfléchir sur de possibles solutions. Peggy Ludovic Dagba nous en parle à travers ce reportage.
La décentralisation en cours au Bénin depuis plus d'une décennie n'a pas encore permis un développement efficient des communautés à la base. En cause, la mobilisation des ressources financières et matérielles pour le développement économique et social local. La commune d'Akpromisrété, située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, derrière Porto Novo, la capitale du Bénin, a compris l'enjeu en initiant un forum économique dont l'objectif est d'élaborer un plan de développement économique local. Le maire de cette commune, Michel, nous parle ici des motivations de l'initiative.
Nous avons constaté que durant tout le temps, le financement qui a été fait n'est pas suffisant pour booster le développement de la commune. Même pour le fonds propre, nous avons pu mobiliser 66%. Le gouvernement et les partenaires, à peine 24%. Fort de ce constat, nous nous sommes dit que nous devons tenir un forum économique, réfléchir sur les mécanismes innovants à mettre en jeu pour pouvoir mobiliser plus de ressources financières, d'abord locales, nationales et international et au profit du développement de la commune d'Akpromisrété.
La formation des jeunes demeure une nécessité pour réussir le pari, selon Justinien Rompati, l'un des communicateurs à ce forum.
Il faut nécessairement un lien entre ressources humaines, ressources financières et matières premières. C'est la mise en synergie des trois qui permettent à la commune de bouger d'un point A à un point B, ce qu'on appelle développement économique local. Nous pensons que les jeunes formés dans le cadre de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'agro-business, les femmes également, les handicapés également, les cultivateurs qui sont déjà là, les agriculteurs qui sont là, qui ne sont pas bien outillés, en fait c'est toutes les couches socio-professionnelles. Si toutes ces ressources humaines-là sont mises en place et sont de qualité et sont suivies, c'est sûr que les ressources matérielles, c'est-à-dire les matières premières étant disponibles, n'assistera mathématiquement ressources humaines plus ressources financières plus matières premières égale développement économique local égale sécurité alimentaire, nutritionnelle, tout ça.
L'Association nationale des communes du Bénin, structure fêtière des mairies au Bénin, soutient fortement ces genres d'initiatives selon sa chargée de programme, Annette Abiassi.
La NCB soutient ces initiatives parce qu'on pourra capitaliser ce qui est fait ici et mettre ça à la disposition d'autres communes qui souhaiteraient faire une telle expérience. Nous sommes toujours disposés à apporter notre contribution pour le développement économique local.
Le plein épanouissement des collectivités locales reste tributaire de leur indépendance économique affirmée qui ne prendra corps qu'avec ces genres de forums. Peggy Ludovic Dagbar, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Nathalie.
Alors en football, les Mamelodi Sundowns ont été sacrés champions d'Afrique du Sud.
Oui, ils l'ont fait en s'imposant mardi contre Supersport United 3-0. C'était lors de la 29e et avant-dernière journée. Il s'agit du 6e sacre national pour le club de Pretoria. Le dernier sacre remonte à 2007.
Et on connaît depuis hier soir le champion de France.
Oui, et c'est le PSG qui a été officiellement sacré champion de France grâce au match nul, un but partout, que Guingamp a arraché contre Monaco, le deuxième du championnat.
Alors le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire prolonge son contrat dans son club, n'est-ce pas?
Oui, le gardien de but international ivoirien, Copa Barry, âgé de 34 ans, a prolongé de 2 saisons, soit jusqu'en juin 2016, son contrat en faveur du club belge de Lokeren. Et Nathalie, en NBA, les demi-finales des play-offs continuent.
Hier soir à Indianapolis, les Pacers ont battu les Wizards par 86-82. Et les Thunder, chez eux à Oklahoma City, ont gagné contre les Clippers de Los Angeles par 112-101. Merci Bagassi pour ces sports. Et à présent, on passe à la musique avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nathalie. Le projet Un geste pour la vie en riposte contre Ebola est une chanson réalisée par 23 artistes, dont Sekouba Bambino, Soul Bangs, Takana, Petit Candia, Kabakadou et Instant Killers. Cette chanson traduit l'amertume des hommes de culture face à ce virus meurtrier déclaré par l'OMS comme type sans précédent.
Alors cette chanson de Guinée Collectif, Un geste pour la vie, Stoppons Ebola, transmet aussi des messages de consolation et d'appel à l'application des consignes données par les spécialistes de la santé, n'est-ce pas Roger ?
Nathalie, ces artistes ont réalisé cette chanson d'une durée de 8 minutes au studio Manchala et elle a été présentée à la presse sous la direction artistique d'Abdallah Mbaye de Mœurs Libre Prod. La participation de tous ces grands noms de la musique guinéenne prouve leur compassion et leur implication dans la riposte contre Ebola.
Guinée Collectif, un geste pour la vie, stoppons Ebola. Merci Roger.
Bonne journée Nathalie.
Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show à 20h, temps universel.
Stop Ebola, va-t'en là, on n'a pas du tout besoin de toi là. Sache que tu pourras pas, je te le promets grâce à Allah. Ce n'est pas une fatalité, frère et soeur, faut pas paniquer. Surtout ne pas la banaliser, le combat est optimisé.
Se laisser aller à la fatalité, on s'en sortira.
La douleur de perdre un être cher sans pouvoir le toucher, celle d'un ami malade sans pouvoir l'embrasser.
Cherche à stopper l'incendie, vas-y, fais le premier pas. Devant le drame de mon pays, je ne suis pas en reste. C'est juste un son, quatre mesures, juste un petit geste.
Pas de fatalité, ni de résignation. Pas de banalité, ni de solution. Car on restera debout, malgré la situation. On serait un
désinfecté. Il y a une quarantaine, la caillalta à la naïne. Ori ate beti deng, ebe. Wate nyamu kule la de deng.
Lagi ne nyama di medi ya nu furi. Wala makeli ya la ko wonga di furi na nati wona raba madi. Awo sawo kameni, awo sawo kamasu.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de Voix de la Voix de l'Amérique et c'est ainsi que s'achève Le Monde aujourd'hui. Présenté par Nathalie Barge et Anne Albertson. Merci à toute la rédaction. Chers auditeurs, bonne journée et à très bientôt sur La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.